days my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine.
Frédéric Dahan, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Max Cohn. On retourne avec Assaf Avidan.
Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think you're true. Here I go again, the blame.
Max Cohn, bonjour.
Bonjour.
Alors, je ne vous connais pas beaucoup, je ne vous connais pas bien. J'ai eu le plaisir de voir, finalement, un jour, en regardant les nouvelles du Mnébri de France, la conférence que vous donniez au Centre MEDEM à propos, justement, de vos travaux sur le yiddish et cette présentation des interviews yiddish au Centre MEDEM. Mais avant de parler, de venir au yiddish, je voudrais que vous vous présentiez.
Bah écoutez, je m'appelle Max Cohn, ça s'écrit avec un K, c'est Cohen.
Voilà.
Ma famille est de Pologne, mes parents étaient des juifs polonais, mon père de Lodz et ma mère de Częstochowa. Moi-même, je suis né à Paris, après la guerre, parce que je suis né en 1951. Et donc j'ai fait des études de philosophie, de psychologie, et puis je suis devenu analyste il y a assez longtemps, c'était en 78.
Je crois que vous enseignez aussi à Paris Diderot.
Je suis aussi universitaire et j'enseigne à l'université Paris 7, Paris Diderot.
Alors quand nous sommes téléphonés, évidemment, pour faire connaissance, je vous ai demandé si vous aviez une musique en tête et vous m'avez tout de suite répondu Benjamin Whittler.
Oui.
Alors, nous allons écouter du Benjamin Whittler, mais je voudrais quand même faire juste le point sur Benjamin Whittler. Donc, c'est un chanteur qui est né en Galicie et qui est venu très, très tôt à Vienne. Et puis, il a fait toute une carrière comme journaliste. Et puis, il s'est lancé dans l'opérette, dans le chant. Et il est devenu, dans les années 30, la coqueluche du public. Et c'est ce que, du reste, nous allons entendre, c'est une chanson de cette période-là. Et ensuite, il parcourt l'Europe. Et en 1940, heureusement pour lui, il émigre aux États-Unis. Nous écoutons Benjamin Whittler.
Gedenk, als noch in Liebe liegt das Glück, die Liebe dort ein neuen Blick. In Kimchen kein Mul mehr zurück, gedenk es gibt. Gedenk, hast du das Glück in deine Hand, wer nicht verschickert, nicht verblendet, nicht leichtes Pater, nicht verschwendet, gedenk, gedenk. Glück nicht walgert sich in Gassen, es ist nicht für jeden Mensch. Sie glück mit Gott, allein sie passen, nur sie mit mir sein gewünscht. Gedenk, hat Gott ihr Glück einmal geschenkt, noch muss es so dein Herz gebänkt, weil flinke Wegen sich nicht lenkt. Gedenk, gedenk. Einmal noch ist Glück von mir durchschienen, wenn ich hab dich gefunden.
Alors Max Cohn, vous nous avez dit que vous étiez psychanalyste et universitaire, et ce qui est vraiment très intéressant, et c'est votre travail de récolte, si je puis dire, de tous ces interviews en yiddish, finalement pour savoir pourquoi les gens continuent à parler yiddish, pourquoi ils parlaient yiddish, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux. Et alors comment la genèse de ces entretiens, qu'est-ce qui vous fait courir?
Eh bien, écoutez, l'origine était dans une rencontre avec un certain nombre de vieux juifs dans un café qui n'existe plus, qui s'appelle Café de l'Espoir, qui est en face de chez Génie, place de la République, qui maintenant a disparu, qui s'appelle l'Infinité à un moment donné. Maintenant, je suis retourné Et ça s'appelle Café Canaille. Hein, donc c'est intéressant. Mmh. Et j'ai trouvé là, à cette époque-là, il y a des acteurs. Un groupe de vieux juifs qu'on m'avait indiqué qui étaient des acteurs naturels. Donc j'avais un sentiment profond de richesse incroyable qui était là. Donc je voulais faire un film, ça s'est pas fait. Et puis j'ai envoyé donc des interviews que j'ai commencé à faire avec des photos de chacun de ces habitués de ce café à Alex Dafner, à SBS Radio, Special Broadcasting Service, à Melbourne en Australie, qui les a passés immédiatement. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'était les mêmes gens qu'il y avait à Melbourne, puisqu'il y en a beaucoup après la Shoah qui sont partis là-bas.
En Australie ?
En Australie, le plus loin possible de la Shoah, le plus loin possible de l'Europe, mais en même temps, conservant leur langue, leur tradition, etc. Donc ça résonnait immédiatement à l'autre bout du monde, aux antipodes. Et puis donc, Alex et moi, nous sommes devenus des amis et nous avons eu une collaboration pendant 5 ans où puisqu'il avait un programme officiel à la radio nationale australienne en yiddish, 2 fois par semaine, donc j'étais chargé des interviews dans le monde entier. Et donc, je me suis pris au jeu. Je me suis pris au jeu très sérieusement puisqu'on en est à 330 interviews. L'émission s'est arrêtée en avril puisqu'il n'y a plus assez de locuteurs yiddishophones en Australie pour qu'il y ait une telle émission nationale dans la chaîne SBS qui s'est arrêtée. Donc Alex a repris une émission sur internet dans l'association culturelle Kadima qui est à Melbourne où il va commencer à repasser certaines de mes interviews. Et donc, ça a été une aventure pendant 5 ans de cet ordre-là. Alors, l'aventure, elle était très intéressante aussi, parce que moi, je suis psychanalyste, mais je ne suis pas psychanalyste tout le temps, bien entendu. Mais enfin, ça, quand même, ça déborde de temps en temps.
Ça déborde un peu.
Ça déborde un peu. Donc, les gens le savaient. Et par conséquent, il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas exactement les mêmes qui se passeraient avec quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que c'est mieux, je dis que c'est autre chose. Voilà, c'est pareil pour les vidéos, puisque Boris Sandler à New York pour le Forverse m'a demandé de faire des vidéos.
C'est celles qu'on voit sur Internet.
Oui,
quand on
absolument.
Voit sur
votre site. Il y en a eu 14 qui ont été faites, et puis ça s'est arrêté aussi parce qu'il n'y avait plus de subvention pour ça. C'était d'ailleurs une somme très faible, mais comme je vous le disais hors antenne, si quelqu'un n'y met pas un peu de son désir et un cadre, je ne vois pas comment on peut travailler. J'ai beaucoup mouillé ma chemise, beaucoup donné, donc j'attends un tout petit peu que ça vienne un peu de l'autre.
Bien sûr.
Mais, je fais le travail après, enfin j'essaye de compléter les choses que les gens avancent quand ils y mettent un peu du leur. C'est très important pour cette question du yiddish parce que ça ne peut pas être enfermé dans les conflits de pouvoir des uns et des autres qui existent. Je connais beaucoup de monde, j'ai vu ce qu'il en était, ce qui se passe, comme ce qui se passe partout, sauf que bon, le champ est très réduit, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc il faut faire passer la parole et c'est notre tâche. Là-dedans, moi, je crois. Et c'est ce que nous avons fait avec Alex.
Et mais le yiddish, c'est votre langue maternelle ?
Oui.
Alors, justement, une langue, c'est fait de plein de strates, je dirais. Et qu'est-ce que le corps... La langue, ça a un corps. La langue, ça détermine une vision du monde et une façon de voir les choses. Et quand vous parlez avec, justement, ces gens... du yiddish, en yiddish, quel corps vous retrouvez-vous ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Puisque c'est votre langue maternelle aussi ? Vous avez plusieurs langues maternelles ?
Non, c'est
vraiment le yiddish.
Ah oui.
Voilà. Bon, alors quel corps retrouvez-vous ? Parce que finalement, on nous parle de yiddish, moi je ne suis pas yiddishisante, et quand j'entends du yiddish, il y a évidemment... plein de choses qui m'échappent, même si on me traduit la langue. Et je vous ai fait venir un petit peu pour ça aussi, pour que vous nous donniez un parfum de cette langue. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on peut traduire le yiddish, mais on traduit du yiddish, comme vous disiez dans un de vos livres, Yiddishkeit et psychanalyse à propos de Cyril Fleischmann, on traduit du yiddish en français. C'est du yiddish français. Et donc, on a une traduction qui est intéressante, mais on n'a pas l'odeur, on n'a pas le parfum de la langue, de cette vision du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je voudrais que vous nous en parliez un petit peu.
Alors, d'abord, une petite remarque. Il y a des interviews où je parle avec les gens du yiddish en yiddish, mais il y en a beaucoup d'autres où je parle de toute autre chose.
C'est vrai.
Ce qui est important, d'ailleurs, c'est ça. C'est-à-dire que là où c'est vivant, c'est qu'on peut, on devrait, si on fait une émission de radio, et c'était le cas avec Alex, pouvoir parler de tout en yiddish.
Bien sûr.
C'est pas seulement du yiddish en
Bien
yiddish.
Sûr.
C'est dommage. Pareil pour les émissions vidéo.
Bon, c'est ça, justement. C'est une des problématiques, justement. Parce que c'est du yiddish. Est-ce que c'est une langue de tous les jours ou est-ce que c'est une langue de l'absence?
Ce n'est plus une langue de tous les jours.
Oui, voilà.
Même dans les milieux religieux. Mm. Dans certains, en tout cas, on l'utilise. D'ailleurs, pour apprendre les commentaires de la Torah, comme on faisait avant, hein, il y a de la production littéraire qu'on voit à New York dans certains magasins religieux en yiddish, mais ce n'est pas la littérature yiddish du 19e siècle
Bien
avec
sûr.
Toute sa richesse, c'est pas
Bien
vrai.
Sûr.
Donc c'est autre chose, c'est intéressant, il y a des tas de choses qui se font.
Bien
mais,
sûr.
Mais au niveau du quotidien, bon, beaucoup de choses étant passées par là, disons en gros l'histoire, ben, ce n'est plus une langue du quotidien pour beaucoup de monde, même si ça l'est encore un peu. Bon, voilà. Alors ça c'est une chose. Donc c'est pas forcément non plus la langue de l'absence. Bon, alors une langue et un corps, je serais plus nuancé que ça.
Oui.
Je dis que, à mon avis, ce que j'entends dans tout ce que j'ai pu faire, et je l'entends là du point de vue vraiment analytique, c'est qu'une langue c'est pas fait de mots, c'est fait de relations entre des gens. Je veux pas tout de suite utiliser un concept pour faire peur de ce qui est celui que nous avons nous dans la psychanalyse de transfert. Mmh. Mais c'est une affaire de transfert.
Oui.
C'est-à-dire que les mêmes mots signifie tout autre chose pour tout le monde. On le sait quand on enseigne, on le sait quand on est analyste, parce que ça résonne avec tout ce qu'il y a comme association affective autour de ce mot dans des séries d'événements qui renvoient à notre histoire, à notre enfance. Voilà. Donc s'il y a quelque chose qui est évocable là-dedans, et ça va beaucoup plus loin que ça, même. Mmh. Dans un premier temps, on peut dire que c'est déjà l'enfance. Donc c'est pas une langue n'a pas de corps, mais elle parle de la relation entre des sujets.
Oui.
Alors ça, c'est autre chose. Et là, ça touche fondamentalement à la relation avec l'environnement, avec l'entourage de celui qui est le locuteur d'une langue, quelle qu'elle soit, ou de plusieurs langues d'ailleurs. Donc c'est les autres qui y étaient, ou qui sont évocables à ce moment-là, qui sont coprésents.
Mm.
C'est-à-dire en clair, pas seulement ma famille qui a disparu, mais tous les autres que je n'ai pas connus. Et quand je discute, et ça c'est une expérience dont je n'ai absolument pas retrouvé l'équivalent dans mon cabinet, puisque évidemment j'ai de temps en temps des sujets qui ont un rapport au yiddish, mais disons que dans le cadre de l'interview, de 10 minutes en plus, en cadre, que ce soit vidéo ou radio, donc je veux dire j'ai intérêt à aller à l'essentiel, je n'ai pas de temps à perdre, l'autre non plus. Et les gens, vous savez, il y en a qui parlent et qui parlent. Donc on fait des séances courtes, hein, très courtes. C'est pas ce que je fais dans mon cabinet, mais là je suis obligé, je n'ai pas le choix. Ça passera pas, c'est tout.
Oui, c'est ça.
C'est
le format.
C'est le format. Donc, je fais 12-13 minutes pour avoir 10 minutes. Donc, avec l'expérience, j'ai appris à aller à l'essentiel. Mais qui est là? Il y a tous les gens qui sont en moi et tous les gens qui sont en l'autre.
Et oui, c'est
vite.
Ça.
Et par conséquent, il y a plein de transferts. Un gars au Café de l'Espoir, qui était un type qui était de Lodge, un vieux, parce qu'ils étaient tous quasiment, sauf un ou deux qui étaient dans des goulags ou cachés en Russie, ils étaient tous déportés, mais déportés graves, quoi. C'est-à-dire à Auschwitz, c'est pas... Ça, bon, mon père était là-bas, il est revenu, ma mère était aussi déportée, elle est revenue, donc ils se connaissaient. Moi, je les connais, parce que je les ai eus comme copains de mes parents ou copines de mes parents quand j'étais tout petit, quand on allait faire la kyr à Mondor ou à Aix-les-Bains. Je les connais, on se connaît. Ils connaissent mes parents. Quand je discute avec certains collègues ou étudiants ou avec certains yiddishistes qui ceci, cela, on ne se connaît pas franchement parce qu'ils font autre chose, ils ne veulent pas entendre ça. Hein? Donc il y a du collectif. Il y a du collectif à l'intérieur de l'autre, ça on le sait en tant qu'analyste, hein, et pas tout seul. En tant qu'analysant, on le sait aussi. Hein. Et il y a du collectif à l'intérieur de soi. Mmh. Et par conséquent, quand on est dans une tentative de dire bon, ben, le yiddish est une langue vivante qu'on peut utiliser pour parler de n'importe quoi dans une interview qui va réellement passer à la radio en Australie, mais qui sera surtout écoutée dans le monde entier.
Mmh.
Et vous aurez des échos. Les gens se connaissent.
Bien sûr.
Il y a des gens qui connaissaient du monde à Melbourne, etc. Donc ça faisait des allers-retours, etc. Et c'était assez écouté.
Oui.
Hein. C'était assez écouté. Donc, voilà, c'est... En rendant la parole comme ça vivante dans une interview qui passe avec un auditoire, on fait surgir le collectif qui est dans chacun des sujets. Et puis, alors du coup, ceux qui sont morts sont repérables, ceux qui sont vivants sont repérables. Et donc, le partage se fait autrement. Donc, c'est un acte de vivant. Et c'est un acte aussi extrêmement important. Moi, j'ai eu, parmi les 300 interviews que j'ai faites, une demi-douzaine qui sont morts après l'interview. Vous me direz, c'est un hasard. Il ne faut pas que j'exagère mon importance. Bien sûr, je ne me prends pas la tête non plus. Mais quand même, il y avait une dame de 99 ans, Liba Augenfeld, qui m'a dit, pour mes 100 ans, je vais faire une fête avec les copains. Il y aura tout le monde, elle pensait m'inviter, etc. Elle a fait l'interview. Très peu de temps après, elle est morte.
Elle avait passé quelque chose.
Il y a des gens... C'est terrible à dire. Il y a des gens, ils viennent chez moi, ils font la fine bouche dans mon cabinet, je veux dire, parce que j'ai trop touché au réel, qui est leur, ils ne reviennent pas pour leur enfant en analyse, etc. J'ai encore eu un exemple là, je ne vais pas vous raconter ça, ça n'a aucun intérêt, mais c'est le lot de tout analyste. Ouais. Bon, il y a des erreurs qui peuvent venir de moi, mais enfin, souvent, c'est aussi quelque chose qui est dans la réalité clinique. Mais là, ces gens-là, donc ils font la fine bouche avec un analyste qui a passé sa vie à essayer de faire en sorte que la parole passe, bon... Un autre qui font moins la fine bouche. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais vu d'analyste. Mmh. Et il y en a un qui me disait, mais quand tu parles, on dirait que tu viens directement de Lodge. Ce qui est complètement faux. Mmh. Mon père, j'ai l'accent de Lodge, comme Dugan et Schumacher. J'aime beaucoup ça, Benson et Hitler. Ça a bercé mon enfance, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça.
Ouais.
Et ça, effectivement, quand les gens m'entendaient, parce que j'ai fait des interviews par téléphone, beaucoup, parce que je ne pouvais pas aller me balader partout dans le monde entier. Je l'ai fait pas mal, quand même. C'est pas pareil. Une fois qu'il y a...
Il y a un contact physique.
Le contact physique est fondamental pour le transfert.
Voilà.
Et y compris pour l'interview. Je n'ai pas fait les mêmes interviews, je tiens à le dire. Les gens s'en rendent plus ou moins compte, moi je le sais. Quand j'ai vu les gens, soit à l'extérieur, soit dans mon cabinet, parce que ça se passait là, il y avait tout mon attirail électronique, ou peu importe, avec un enregistreur à l'extérieur, que quand c'était par téléphone. C'est pas pareil, c'est pas vrai. Alors c'est là où la présence physique est fondamentale.
Bien sûr.
Parce que le type de transfert qui va se créer là, moi je parle en tant qu'analyste là carrément, c'est pas le même. Et y a des choses qui vont surgir dans les gestes, dans les attitudes, dans les clignements d'yeux, etc., qui sont présents. C'est que c'est complètement absent si vous parlez au téléphone,
même par Skype.
Trucs par Skype. C'est pas pareil. Donc voilà, c'est cet acte de vivant qui encourage les gens à y aller. Ils se disent, tiens, mais je suis vivant, et il y en a qui vont le savoir. Je suis pas encore déjà mort.
Et justement, on écoute la deuxième chanson que vous avez choisie, Max Cohen.
Viel gesingen, gemacht Success mit sei, sei haben schön geklingen, nur vergessen werden sei. Lieder in Romanzen gesingen und erschiel, nur die beste Chancen, weißt ihr, wo's hat bei mir. Du's Gesang in mein Hals ist meine Schule. Dies Gesang in mein Hals bringt mir Freud und Achille. Dies Gesang in mein Hals hält a jeden von Pein. Mit dem Gesang in mein Hals kämen glücklich noch sein. Wir sehen jene Zeiten von Freud und Glück und Schild. Gewähnt sie Gott in Leiden, bei mir in euch verdient. Die Zeit hat sie gebitten, sie sitzt nicht wie ich will. Hoff's wird besser werden, singt mein Herz mir in der Stille. Du's Gedanke in mein Herz ist meine Schule. Dies Gesang in mein Hals bringt mir Freude und Achille. Dies Gesang in mein Hals hält a jeden von Pein. Mit dem Gesang in mein Hals kämen glücklich noch sein. Dies Gesang in mein Hals ist meine Stimme, das Gesang in mein Hals bringt mir Freude und Achille. Das Gesang in mein Hals
hält er jeden Wind fein mit dem Gesang in mein Herz. Kenn mein Glück lach,
alors, puisque le yiddish, ça permet finalement de garder vivant, hein, de garder vivant tous les gens qui sont partis.
Oui.
Et c'est un, je dirais, c'est notre devoir de, d'être humain.
Oui.
Hors micro, tandis que nous écoutions cette chanson qui a dû bercer, je dirais, vos parents. Hein, devait passer à la radio quand ils étaient à Lodz. Je vous ai demandé de me traduire une phrase de cette chanson et vous avez choisi une phrase et je donne la traduction que vous m'avez donnée. Le chant de mon cœur est mon âme. Est-ce que vous pouvez la dire en yiddish?
Das Gesang von mein Herz ist mein Neshume.
Alors, est-ce que c'est la traduction littérale?
Oui.
Voilà, c'est vraiment le chant de mon cœur est une âme. Vous ne l'avez pas francisé.
Et mon âme.
Et mon âme, pardon, oui. C'est vrai. Alors, on n'a pas. Finalement, on a des fois envie de se taire après ça. Moi, j'ai envie de me taire pour écouter un petit peu plus, c'est tout. Mais j'ai vu beaucoup de vos interviews pour parler pour aller un peu plus loin, et surtout parce que je vois l'heure qui galope, les minutes qui galopent. Dans vos interviews, on voit beaucoup de jeunes qui reprennent le yiddish. On voit des jeunes à Moscou qui parlaient yiddish, mais bon, même pas forcément, qui reprennent le yiddish, qui s'inscrivent à des cours de yiddish, qui finissent par donner des cours de yiddish. Il y a aussi des jeunes en Argentine. Vous avez une jeune femme en Argentine qui chante des tangos en yiddish, qui dit bah, « j'ai entendu ça, mais finalement je ne le parlais pas, et puis je suis revenue ». Qu'est-ce qui se passe dans tout ça?
Écoutez, moi je pense qu'il y a eu l'histoire qui est passée par là, en particulier la Shoah.
Bien sûr.
Qui n'explique pas tout, mais qui est quand même une grande cause de disparition de juifs.
De yiddish.
Et donc, ce n'est pas seulement une ou deux générations, c'est plusieurs générations qui ont été détruites.
Au moins trois. Oui.
Voilà, au moins trois. Et je peux vous dire que ça produit encore des effets,
bien
y compris
sûr.
Sur la quatrième. Bon, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Un jour, j'étais dans ma rue, rue des Martyrs, il y a un couple, j'étais en train de lire les cahiers yiddish, dirigé par Claude Ampel, dans lequel j'écrivais d'ailleurs, et un jeune couple qui vient me voir, mais c'est du yiddish. Je dis oui, mais attendez, on veut discuter avec vous, vous ne pouvez pas savoir ce qui nous manque, ce que ça peut nous manquer, où est-ce qu'on peut apprendre ça, où paraît ce journal. Alors, je leur ai dit, je sais à quel point ça peut vous manquer. Pourquoi? Parce que, évidemment, non seulement j'ai rencontré plein de jeunes comme ça, enfin jeunes par rapport à qui, c'est bon, par rapport à des gens plus vieux, mais en tout cas, qui voulaient en réalité discuter avec leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents dont ils ont été dépossédés.
Mais ce que vous dites à un moment, c'est que finalement, ce qui se transmet dans le yiddish, c'est son absence, et que cette absence est héréditaire. Bah, c'est ça ce que vous voulez dire aussi?
C'est-à-dire, non, ça c'est plutôt Rachel Hertel qui dit ça.
Oui.
C'est plutôt elle qui dit ça, c'est pas faux. C'est-à-dire que dans les familles, si l'usage d'une langue est une affaire de transfert, si cette langue a complètement disparu, on entérine complètement la disparition des gens. On ne peut pas se permettre ce luxe, je dirais,
bien
d'effacer
sûr.
Des traces comme
bien
ça pour
sûr.
Nous. Hein, c'est impossible. Donc, autant non, mais je veux dire, moi, toute ma vie, j'ai absolument refusé ça. Hors de question. Je suis obligé de le dire.
Bien
parce
sûr.
Que c'est inacceptable. L'histoire nous a fait ça. On ne va pas encore nous faire ça. En plus, ça ira comme ça. Donc, je crois que c'est une tentative de nouer du contact avec d'autres générations qui étaient là avant et de faire en sorte que ça se succède un petit
bien
peu.
Sûr.
Mais c'est une façon de reconnaître la perte. C'était archi évident, quelle que soit la qualité de l'enseignant, qu'un jeune qui apprend le yiddish, ce n'est pas sa langue. C'est par conséquent quelque chose que quelqu'un qui la connaît à travers tout son vécu d'enfant entend immédiatement. Mais ce n'est pas grave, ça n'a aucune importance. Parce que d'une certaine façon, c'est une reconnaissance de la perte. Et c'est une façon d'avancer, de dire, bon, ben voilà, il y a des liens qui se sont perdus, mais nous, on essaye quand même d'être touchés par ça et d'en faire quelque chose.
En tous les cas, Max Kuhn, je vois les minutes qui s'égrènent et puis nous avons bientôt terminé l'émission. Mardi 8 octobre, vous serez à l'Institut Goethe, vous allez être à l'Institut Goethe à 20h30, justement, pour évoquer ce yiddish avec ce très beau titre du reste. Je suppose que c'est vous qui l'avez trouvé, « Faire remuer les lèvres d'une langue qu'on a fait taire ».
C'est Eri de Luca.
Ah, vous voyez. Voilà, qui s'est mis au yiddish aussi, voilà, après s'être mis à l'hébreu pour lire. Alors, on écoute le dernier, on va se quitter en écoutant le dernier morceau que vous avez choisi. Je vous dis au revoir, Max Cohn, et à très bientôt, j'espère.
Au revoir et merci.
Verse mein, gib es doch mir ein, fill mit jedes Wort.